7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment retrouver son âme d'enfant ? Je parle de cet optimisme, de cet enthousiasme, de cette liberté à rêver son destin à tout âge. Alors comment cultiver cette énergie si particulière, y compris quand la vie n'est pas aussi joueuse que nous l'espérions ? Nous allons en discuter avec nos invités, conférenciers, coach. Franck Martin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez Super pouvoir de l'innocence. On peut parler d'une récidive après le pouvoir des gentils. Vous êtes toujours de bonne humeur.
Oui.
Ça fait plaisir. Tout comme André Stern, bonjour.
Bonjour.
Tous enthousiastes, c'est le titre de votre livre. Alors bien sûr, on va discuter de cette capacité à s'émerveiller. Et bien sûr, les voisins et les voisines, c'est vous qui faites l'émission. Dites-nous quel est l'optimisme que vous cultivez en vous-même, que vous procure aussi les petits plaisirs dans votre vie quotidienne. Racontez-nous votre part d'enfance, quelle que soit la raison de vos enthousiasmes, que ce soit le sport, le jeu, la rencontre, ça peut être l'observation de la nature. Appelez-nous 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. On parle de cette forme d'émerveillement qui caractérise d'ailleurs souvent les artistes. Et évidemment, je pense à Charles Aznavour qui avait encore des projets à plus de 90 ans.
En fait, j'écris rarement des chansons au départ. Pas plus que je n'écris des poèmes. Je prends des notes et par déformation professionnelle, parce que finalement on est tous déformés, je rime. Je rime comme les gens font des mots croisés. Ça m'amuse de trouver la rime. Je relève une idée, et puis après, pour m'amuser, je la mets en vers. Et puis un jour, l'été particulièrement, je reprends mes notes, et à travers ça, j'écris des chansons. Ce qui fait que je n'ai jamais écrit pour le public. J'ai écrit pour mon plaisir d'abord, et ensuite je le propose au public.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meubles et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Charles Aznavour nous a quittés à 94 ans, c'était un monument de la chanson française, mais est-ce que précisément c'est pas vraiment l'homme juvénile par excellence, Franck Martin ?
Ah oui, en tout cas il était effectivement vraiment comme ça. Moi j'ai regardé encore en comment on appelle ça, en podcast, enfin en différé, une émission où il était vendredi soir invité et où effectivement il faisait des projets les plus extraordinaires. Et je pense que vraiment il avait cette âme, pas forcément une âme d'enfant parce qu'il était tout sauf naïf, mais en tout cas il avait cette forme de naïveté et de liberté qui, je pense, était même renforcée avec l'âge.
Oui, mais alors attendez, vous dites pas forcément une âme d'enfant parce qu'il était tout sauf naïf, mais vous, vous signez les pouvoirs, les super pouvoirs de l'innocence. Oui. Comment retrouver la part de génie de notre enfance?
Oui.
C'est pas la naïveté tout à fait, l'innocence.
C'est pas la naïveté, mais l'innocence.
Forme de fraîcheur. Hein.
Oui, et moi je dirais même, j'aime bien ce terme-là, c'est vraiment la liberté. L'enfant, avant qu'il ne soit à l'âge de raison, c'est-à-dire autour de, en fonction des enfants, ça peut démarrer autour de 5-6 ans, en général 6 à 8 ans, lorsqu'il n'est pas dans l'âge de raison, est totalement libre, libre des pensées, il n'analyse pas, il ne compare pas, c'est un être zen, il est dans l'ici et le maintenant. Ouais. Et ce que j'explique, c'est que même adulte, même si c'est bien au fond de quelque chose, au fond de soi, on a toujours ça en soi et on peut le retrouver.
André Stern, Charles Aznavour, l'homme juvénile par excellence.
Oui, l'homme juvénile, on teinte toujours ce qui est, justement, l'innocence, la naïveté, on le teinte toujours d'un petit, ça s'accompagne toujours de quelque chose de désagréable, et c'est pas le cas parce qu'en réalité, c'est dans ce côté juvénile, dans cette enfance qu'on a tous encore en nous, que prennent racine toutes ces grandes qualités qu'on aime voir chez nos adultes, justement.
Ouais.
Et je crois que c'était surtout un enthousiaste, parce que voilà, c'est mathématique certes, mais je pense que cet enthousiasme, il ne change pas, il n'évolue pas, il ne vieillit pas.
C'est pas propre à tous les artistes hein, d'ailleurs, parce qu'il aurait pu terminer sa vie noyé dans ses souvenirs de stars déchues comme tant d'autres. Alors qu'est-ce qui explique finalement ce ressort si particulier, notamment chez certains artistes, et pas tous d'ailleurs hein.
Alors chez Aznavour ou chez les autres, je sais pas. Ce dont je me rends compte moi, c'est que ces adultes qui finalement n'ont pas d'âge, hein, et
oui,
je trouve ça plutôt chouette, c'est précisément ces adultes qui sont conscients de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire c'est à la fois cette part qui est une part qui peut vieillir, qui est ce qu'on appelle la part de l'ego, et puis aussi c'est la part qui est consciente de cet ego qui, elle, ne vieillit pas. Et je pense que précisément ces adultes-là, ces artistes aussi parfois, ont cette forme, alors j'allais dire de conscience, ou même d'inconscience, parce que parfois certains appellent ça de l'inconscience, mais qu'on retrouve quand on... Quand par exemple, vous avez un peintre qui tout d'un coup va se mettre devant sa toile et qui ne va pas être dans la réflexion, qui ne va pas être dans cette attitude, justement, il va être dans le lâcher-prise total. C'est... les sportifs de haut niveau font ça. Quand André, je ne sais pas comment tu fais toi, quand tu écris, à un moment donné, tu écris, tu ne réfléchis pas à ce que tu écris. Et voilà, c'est cette part-là de liberté qui est extraordinaire et qu'on peut appeler, entre guillemets, notre âme d'enfant.
Quand vous faites vos conférences, André Stern, d'ailleurs, j'allais vous demander dans quelle époque vivons-nous pour qu'on fasse appel à des experts en enthousiasme, y compris dans les entreprises. Et je trouve ça assez inquiétant, personnellement.
C'est d'autant plus inquiétant qu'on peut lire les statistiques et que là, ça le devient davantage. Hein. Un enfant éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Ça veut dire que la précédente n'est pas encore terminée, que la suivante commence déjà. Et quand on sait tout ce qu'on sait dorénavant sur l'énergie qu'est l'enthousiasme et sur sa provenance et ses conséquences, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit ça pendant notre enfance. Les mêmes statistiques, alors les statistiques, c'est toujours ce que c'est, ça vaut toujours ce que ça vaut, mais elles nous indiquent qu'un adulte éprouve cette quantité d'enthousiasme 2 à 3 fois par an.
Mmh. Alors, deux à trois fois par an.
Par an,
c'est terrible.
Ouais.
Alors,
et
ça c'est
pour un enfant.
Toutes les 2 à 3 minutes.
D'accord.
Ah oui, c'est de quoi développer sa sérotonine.
Bon bah ici, on va faire mentir les statistiques. Allez-vous nous appeler? Comment retrouver son âme d'enfant, une forme de fraîcheur, d'innocence, d'enthousiasme, d'énergie? 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur qui nous appelle de région parisienne. Pascal, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Pascal.
Mais en fait, la difficulté, c'est pas de retrouver son âme d'enfant. Je pense qu'il ne faut pas la perdre.
Ah ben ça, on est bien d'accord.
J'ai eu la chance, ou ma chance, de ne pas avoir de père et d'une mère qui ne s'occupait pas de moi. Et du coup, le changement d'âme d'enfant à d'âme d'adulte, si on veut dire, si on continue, eh ben, je ne l'ai pas vraiment eu. Et du coup, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer me disaient ben, « Pascal, tu es naïf, tu crois que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. » Eh bien oui, je veux croire ça. Parce que ça rend heureux.
Oui.
Et j'ai super de 3 garçons que j'élève comme ça. J'essaye de mettre en application ce que je crois, c'est que tous les enfants, quand ils naissent, ils sont bons.
Oui.
Ce n'est pas moi, l'adulte, qui vais le rendre bon. Oui. Il est déjà bon. Mmh. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il le reste. Mmh. Et tous les gens qui viennent chez moi me disent « Mais tu as de la chance, tes enfants sont extraordinaires, ils t'aident. » Ils font tout, ils ont beau être adolescents, voire un peu plus, et ils sont toujours là.
Oui, je précise que vous êtes divorcé, Pascal, et que vous élevez, vous avez la garde de vos trois garçons. Hein.
Voilà.
Qui ont quel âge ?
7 ans. Eh bien, aujourd'hui, c'est 18, 17, 15.
Ouais.
Et quand je les ai récupérés, eh bien, vous enlevez 7 ans à tout le monde.
Ah oui, d'accord.
Et donc, dès le début, ça a été comme ça. C'est-à-dire, je les éduque pas pour qu'ils deviennent des gens d'une certaine manière. Par exemple, je dis pas, quand je leur donne à manger, quand je m'occupe d'eux, j'ai pas besoin d'un merci, j'ai pas besoin d'un s'il te plaît. C'est normal que je le fais. C'est bien, c'est l'amour, on s'entraide. Et on s'entraide tous comme ça, et tout le monde est heureux. Bon, ça, vous l'entendez pas dans ma voix, mais c'est le bonheur au quotidien.
Mais ça aurait pu donner, enfin, j'imagine qu'autour de vous, les gens vous disent, mais comment, tu aurais pu fabriquer des enfants très gâtés au sens, comme on l'utilise d'ailleurs le mot sur le continent africain, hein, gâtés au sens, finalement, tout leur est dû.
Eh bien, en fait, la démarche, elle est autrement. C'est justement, c'est gâté, je ne sais pas si gâté existe dans un sens positif, mais mes enfants sont gâtés d'amour, pas de cadeaux. Et c'est là où on revient presque à un aspect politique, où mon rôle, ce n'est pas de leur dire, tiens, si tu fais quelque chose de bien, alors tu auras quelque chose. Non, et tu fais quelque chose de bien parce que tu es quelqu'un de bien.
Oui.
Surtout, ne change pas.
Oui.
Et c'est là où notre société nous dit l'inverse.
Ah bah complètement, ça vous naviguez vraiment à contre-courant, hein, Pascal.
Tout travail mérite salaire, etc. Chez moi, non. On ne travaille pas à l'école pour avoir un diplôme, pour bien travailler, non. On va à l'école pour développer son cerveau, pour réfléchir et devenir quelqu'un qui est capable de beaucoup réfléchir.
Ouais.
Beaucoup réfléchir, ça ne veut pas dire devenir méchant.
Ouais.
Ça veut dire comprendre le plus de paramètres possible et pas en vouloir à des gens qui sont en difficulté comme nous on pourrait l'être.
Pascal, c'est étonnant parce que vous avez dit que vous avez grandi quasiment orphelin. Hein.
Au contraire,
beaucoup de gens disent bah, j'ai dû devenir adulte très tôt, trop tôt d'ailleurs, qui donne une forme de dureté dans le regard sur la vie.
Eh bien, en fait, quand j'étais enfant, on pouvait me donner une certaine maturité. La maturité, c'est dire voir des choses qu'éventuellement des enfants ne leur en parlent pas.
Oui.
Mais au fur et à mesure que l'on grandit, bon, j'ai fait des études, etc. Et c'est là que j'ai pu voir les limites de ne pas avoir été éduqué, autrement dit, de ne pas rentrer dans le moule.
Voilà. Eh bien, ça sera la conclusion. Merci, Pascal, de nous avoir appelé. Bien évidemment, vous continuez de nous téléphoner pour conserver son âme d'enfant, énergie, enthousiasme, optimisme, innocence. André Stern, que vous inspire le témoignage, l'histoire de Pascal ?
Alors, beaucoup de choses. D'abord, merci. Je suis toujours heureux d'entendre et de collectionner des histoires de ce type. Il y a beaucoup de choses. La première que je voudrais attraper au vol, c'est l'enfant gâté, parce qu'on nous dit souvent ça. Et ça repose quand même sur une chose assez étrange. Comment croire qu'un enfant auquel on donne, par l'exemple, du respect, comment peut-on croire que l'enfant qui vit du respect va devenir irrespectueux ? C'est cette tendance qu'on a hein, de penser que... Et comme nous vivons dans une société très âgiste, c'est-à-dire qui discrimine par le biais de l'âge, nous avons cette manière de nous positionner au-dessus de l'enfant et de penser qu'il est d'une mauvaise nature lui-même si nous ne l'élevons pas, hein, d'où les mots. Et prendre les enfants comme exemple ne nous viendrait jamais à l'idée, alors que justement ils vivent sous nos yeux à peu près toutes les qualités dont nous rêvons en tant qu'adultes.
Ah oui.
Et ça change. Et vraiment, hein, un enfant qui joue, un enfant qui est dans son élément, va être d'un sérieux que nous aimerions voir, même seulement un peu de ce sérieux chez un adulte. Un enfant qui joue est capable d'une concentration. Il nous faut des années de méditation pour être capable de nous concentrer 5 minutes comme se concentre un enfant naturellement sur son jeu pendant plusieurs heures. La créativité
plusieurs d'un heures, qui... plusieurs heures, vous êtes optimiste là quand même.
Un enfant qu'on n'interrompt pas joue pendant des heures. Bon, toutes ces qualités-là, les enfants nous les présentent en permanence, et surtout ils nous montrent une incroyable ouverture d'esprit. Une incroyable ouverture d'esprit parce qu'ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les métiers et entre les matières, entre les gens, entre les espèces, et surtout entre les âges. Donc ils se sentent tout de suite reliés aux autres, tels qu'ils les rencontrent, capables de s'enthousiasmer, et quand on sait ce que l'enthousiasme peut faire pour nous... Quand Pascal disait on ne doit pas retrouver, non, il s'agit surtout justement de conserver, de ne pas perdre cette nature, cette énergie qui est à la base de toutes les histoires que nous aimons, qui commencent par « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et cette énergie-là, c'est celle qui nous fait déplacer des montagnes, c'est celle qui nous fait sauter par-dessus des flaques trop grandes quand on est petit. Cette énergie-là, elle est en nous, en chacun de nous, on la porte depuis le début. Il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse, mais... elle s'effondre sous le poids des attentes, des demandes qui nous sont faites et des hiérarchies dont je parlais tout à l'heure.
Et des responsabilités quand on entre dans l'âge adulte. Alors, on va voir, Pascal, on a eu l'exemple de cet appel de Pascal et comment il gouverne sa vie quotidienne avec cette philosophie-là, finalement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Moi, ce qui me fait garder mon âme d'enfant, moi personnellement, quand j'étais petit, j'ai eu plein de cadeaux allant dans le domaine du sport, plus particulièrement le football. Étant donné que les parents n'ont pas vraiment le temps de passer du temps avec moi parce qu'il y a les occupations, il y a le travail et puis tout ça, ça fait que j'ai cultivé une certaine relation avec ces objets. Donc ça fait que aujourd'hui, revoir ces objets que je garde encore dans ma chambre me rappelle mon enfance, me rappelle les émotions que j'avais eues, les passions. Je revis encore cela. Et cela m'aide à avancer en ce sens que quand j'étais petit, que je jouais avec, je me fixais des objectifs, j'avais des rêves. Et ça fait qu'aujourd'hui, revoir ces objets-là réanime ces rêves et ces objectifs que je m'étais fixés.
Voilà, c'est un message de Jean qui a été posté sur WhatsApp. Il est à Lomé, au Togo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui conservent des objets de son enfance chez lui, dans sa chambre. Ça peut sembler incongru. Et vous voyez la force de l'objet pour se souvenir et pour se redonner, enfin retomber dans les émotions de son enfance. Franck Martin, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors... oui, je pense que les objets que l'on peut garder nous permettent de conserver le lien émotionnel, émotif. Mais quand j'entendais Pascal tout à l'heure qui nous disait « oui, notre problème, c'est pas de le retrouver, c'est de le garder », c'est souvent, malgré les objets que l'on conserve, on a plus la nostalgie que la redécouverte de nos super pouvoirs d'enfant. Et en fait... Ce dont on se rend compte, c'est que précisément la difficulté que l'on a tous à garder ces super pouvoirs, cette part de génie hein, réellement, c'est que nous sommes d'abord pas forcément élevés mais plutôt rapetissés par des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, hein, de manière totalement légitime, et aussi par un monde d'adultes, que ce soit les parents de nos copains, mais que ce soit aussi nos instituteurs, nos éducateurs, etc. Et puis aussi le monde médiatique qui est autour de nous et qui pratique... depuis qu'ils sont malheureusement en âge de raison et qu'ils ont totalement oublié qui ils étaient quand ils étaient petits, ces fameux raisonnements à l'emporte-pièce, ces analyses qui nous coupent de ce paradis. Je dis souvent, je fais cette espèce de comparaison, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né, Emmanuel. Moi, je suis né le 13 août 1961 et mes premiers souvenirs remontent à 1964-1965. Est-ce que ça voulait dire que pendant toutes ces années-là, j'étais mort? Ou j'étais dans une quatrième dimension? Non, pas du tout. J'étais précisément... Alors, j'ai pas codifié tout ça dans mon disque dur grâce au langage, à la langue, mais j'étais précisément dans cette force de l'âge, si j'ose dire, cette force du petit âge, où nous étions, et nous étions tous, c'est ça qui est extraordinaire, capables de vivre ici et maintenant, capables de ne pas avoir de pensées compulsives. 98% aujourd'hui des pensées des adultes sont compulsives. C'est-à-dire que ce que vous pensez, vous, Emmanuel, ou n'importe qui, c'est 98% de même chose, alors que que l'enfant est capable, parce qu'il n'a aucune notion de tout ça, de vivre ici et maintenant, mais de manière totalement zen. C'est-à-dire que ce que nous essayons de faire avec effort pour faire de la méditation en pleine conscience, eux, ils vivent en pleine conscience. Donc, quand Pascal disait « garder », eh bien, c'est aussi, c'est je pense, la chance que toi, tu as eue, André, de ne pas rentrer dans un système dès le départ et qui t'a gardé, alors grâce à tes parents, puis grâce à ce que tu as vécu, cette forme de liberté. Moi, je pense que c'est ça qui est très fort. Pour la garder, eh bien, il faut que les enfants et les adultes qui sont autour de ces enfants soient conscients de tout ce qu'ils ont perdu à l'âge de raison. Ouais. Ils ont perdu le paradis.
André Stern, justement, dans Tous enthousiastes, vous avez, pour comprendre comment se conserve l'enthousiasme et quels sont ses pouvoirs, vous êtes allé à la rencontre de personnalités qui sont quand même très différentes. Il y a un musicien corse, un scientifique, un militant indien, votre père aussi. Mais finalement, quelle conclusion en déduisez-vous finalement à la lumière de ces parcours-là? On pourra toujours dire d'ailleurs que ce ne sont pas des parcours ordinaires.
Hein. C'est justement les parcours extraordinaires qui nous motivent toujours, qui nous donnent envie de faire comme eux. Vous citez mon papa par exemple. Mon papa, ça a toujours été un modèle à mes yeux, mais je n'ai pas envie d'être lui. Il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que nous regardons les gens qui nous inspirent. Et toutes ces personnes dont vous parlez, oui, elles ont toutes, mais comme chacun, un parcours atypique. Mais ce qui les a caractérisés, c'est justement l'enthousiasme qui les a portés jusqu'au bout. Et ces parcours atypiques, nous en voulons souvent l'arrivée, mais pas le cheminement. C'est-à-dire, beaucoup de parents voudraient que leur enfant soit Steve Jobs, mais pas qu'il quitte l'école avant l'heure. Voudraient qu'il soit Einstein, mais pas qu'il soit mauvais en maths, etc. à l'école. Hein.
Et dans les entreprises, là où vous intervenez précisément?
Alors, dans les entreprises, c'est exactement
c'est
pareil. Moi, j'ai rencontré, il y a maintenant 3 ans, une pédopsychiatre qui était une farouche fervente de Maria Montessori. Donc Maria Montessori,
pédagogue du
début du XXe siècle. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'était que le concept de contenance de Maria Montessori, qui passe par 5 points essentiels, le premier point, c'est la sécurisation de l'enfant, le deuxième, c'est répondre à ses besoins essentiels, le troisième, c'est un être de relation qui doit être en relation pour pouvoir justement s'élever au vrai sens du terme, le quatrième, c'est faire de la créativité et du développement, et le cinquième, c'est prendre du plaisir et être enthousiaste. Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que dans les entreprises, ils étaient à la recherche de la contenance. Donc moi, je me suis mis à dire, ben, on peut construire des entreprises contenantes et on peut faire du management contenant. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les rencontres que je fais en entreprise, des petites, des moyennes, des grosses, des très grosses, sont maintenant, alors avec des concepts, vous savez, d'entreprise libre, tout ce qu'il peut y avoir, à la recherche de cette espèce de contenance. Et on peut le retrouver. Donc la sécurisation pour une entreprise, c'est très simple. C'est permettre d'ouvrir la parole, c'est permettre aux gens de s'exprimer, c'est avoir un haut de bilan, comme on dit financièrement, qui soit suffisamment solide pour que les gens se sentent bien, qu'ils soient capables de dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire sans avoir peur de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête quand ils n'atteignent pas leurs objectifs ou qu'ils ne disent pas le correctement politique. La réponse à leurs besoins, c'est le haut de la fameuse pyramide de Maslow. C'est la reconnaissance et l'estime de soi. Qu'un gosse, et le gosse, c'est pareil. Hein. Le troisième point, c'est être en relation avec le monde qui l'entoure. Donc, c'est travailler en mode collaboratif. Le quatrième point, c'est la créativité et le développement. Donc, c'est faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui est dans une tâche répétitive puisse participer à des brainstorming, faire du benchmarking. Et le dernier point, qui est pas le moindre, c'est qu'ils prennent leurs pieds, c'est qu'ils prennent du plaisir, c'est qu'ils soient enthousiastes à faire ce qu'ils font.
Et ça,
parce
c'est
que...
possible, quelle que soit sa condition de vie, finalement.
Ah,
c'est
oui,
ce que vous
oui.
nous dites, tous les deux. Hein.
Complètement. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je dis.
En tout cas, vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous souhaitez dialoguer, questionner nos invités André Stern et Franck Martin. 33 1 84 22 71 71. Comment conserver son âme d'enfant dans un monde adulte qui se doit d'être sérieux, rationnel? Comment réveiller l'enfance et le génie qui sommeille en nous pour se dépasser avec confiance? Cabelo que já bonzou, cheio e manamado, e o caço sassou. O caço sassou, cabelo que já bonzou, cheio e manamado, calunga já broxou. I'm
bonzo, chewe mana mado, e boca su sasso, boca su sasso, cabelo que já bonzo, chewe mana mado, calunga já bruxo. Kudi fala mangole, nimbo ya menandenge, ngando futuka, kweza jakukala, pongo pongo mwene mwene, kidi mwene, yeba. Tetegete, 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 waka sisasu, tetegete, 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 waka sisasu, tetegete, 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 waka sisasu, tetegete.
Si avec Pongo, Kasusa, on n'est pas de bonne humeur, alors je ne sais pas ce qu'il faut. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone de notre standard. Si vous souhaitez dialoguer avec nos invités André Stern et Franck Martin, qui publient tous les deux un livre sur finalement comment retrouver à la fois le pouvoir de l'innocence, la fraîcheur, l'énergie propre à l'enfance et surtout cette forme d'enthousiasme et d'optimisme. On prend vos appels. Je voudrais d'abord lire le message de Kylian qui poste sur Facebook. Il me suffit d'un peu de musique et je m'évade, un Joe Dassin en passant par Céline Dion, sans oublier Francis Cabrel, et je me sens au paradis. C'est la seule thérapie qui me permet d'échapper un tant soit peu à tous les problèmes de cette vie. Mais il ne s'agit pas seulement d'échapper, hein, mais plutôt de survivre et de dépasser les problèmes. C'est ce que vous nous enseignez tous les deux. On prend l'appel de Pierre qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu Pierre, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins et vous souhaitez tout de même opposer une forme de mais dans ce que disent nos invités. On vous écoute.
Oui, oui, parce que tout à l'heure, en définissant même l'âme de la jeunesse, on a parlé d'innocence. Mmh. Vous savez, l'innocence, c'est quelqu'un qui est clean, hein, qui est limpide. Vous voyez, alors que à côté des difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, les interactions et les interdépendances, on peut arriver à ne plus être innocent en posant certains actes. Et la dureté de la vie peut faire qu'on perde cette âme de jeunesse. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma maman était tellement tendre avec moi.
Oui.
Je croyais que le monde était parfait.
Oui.
Vous voyez, tout ça, c'est l'innocence. Je me disais, tout était beau, hein, autour de moi.
Oui.
Et puis, subitement, je devais les quitter parce que je devais entrer dans la vie active, me marier, avoir des enfants. Alors, c'est là où j'ai commencé à comprendre que le monde n'était pas aussi beau que je le pensais.
Mm.
Et que peut-être mes parents aussi ont dû rencontrer certaines difficultés comme moi maintenant.
Oui.
Alors, dans cette lutte...
Des difficultés dont ils ont tenu à vous préserver, quand même.
Voilà, ouais.
Mais,
voilà.
Et finalement, vous trouvez qu'ils vous ont trop préservé, trop protégé?
Oui, moi je peux dire ça. Puisque étant l'aîné, je suis l'aîné d'une fratrie de six gosses.
Mm.
Alors, donc, je peux prétendre que... Non, je peux plutôt soutenir. Mes parents m'ont tellement couvé,
oui,
que je croyais que le monde était à cette image.
Donc, conclusion, vous voulez nous dire qu'être optimiste ne dépend pas de nous?
Non, pas du tout.
Mm.
Parce qu'on peut être optimiste sans détenir les outils, hein, qui peuvent vous amener à garder cet optimisme longtemps.
Oui, mais enfin, vous êtes d'accord qu'avec deux personnes qui ont exactement le même type de destin et le même type de problème dans la vie, vous pouvez en rencontrer une qui va être extrêmement optimiste. Bon, on a entendu Pascal qui élève seul ses trois garçons et qui était orphelin de père avec une mère quasiment absente. Hein, il nous a décrit sa vie. Et en même temps, il avait une forme d'enthousiasme et de générosité sur la vie assez incroyable, peut-être assez atypique. Mais vous, bien sûr, Pierre, vous êtes quand même à l'image de ce que nous pensons tous. Hein. Et donc, merci de nous avoir appelés pour nous poser ce problème-là. Que faut-il répondre à Pierre, Franck Martin ?
Alors, bah, moi, je répondrai à Pierre, déjà, merci de ce témoignage. Alors, pour le coup, sur le plan totalement personnel, j'illustre précisément ce qu'il dit. J'ai une phrase qui me vient souvent en tête maintenant, et depuis maintenant longtemps, et qui est que ça n'est jamais la réalité qui nous limite, mais c'est l'idée que l'on s'en fait. Moi, personnellement, je suis né malvoyant. Donc je suis aveugle de l'œil droit, j'avais une cataracte donc congénitale aux deux yeux et aussi à l'œil gauche avec toute une série d'autres complications, et il se trouve que j'ai été élevé, alors pour le coup, dans un contexte familial qui a pris soin de moi, mais qui en même temps m'a fait vivre de manière totalement naturelle. Et lorsque j'ai été opéré, donc mes premières opérations ont eu lieu, je devais avoir 6 ou 7 ans à peu près, j'avais à côté de moi un ami qui avait exactement les mêmes problématiques que moi, et qui a été élevé, lui, par ses parents, et qui a donc vécu les choses vraiment de manière très différente, c'est qu'il a été élevé comme quelqu'un qui était un infirme. Alors que moi, j'ai été élevé comme quelqu'un qui était totalement normal. Et derrière, le résultat, c'est que la réalité factuelle est la même pour lui ou pour moi, mais la manière dont nous l'avons interprétée est totalement différente. Et c'est en cela que on a aussi ce choix, et c'est en cela aussi qu'on peut revenir à cette force de l'enfance qui, justement, ne codifie pas l'expérience. Il l'apprend de manière factuelle. Il y a une phrase là aussi qui me revient souvent, et qui est que la vie n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme elle est. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas d'autre choix que de prendre de manière totalement inconditionnelle ce que la vie me réserve. Ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir, mais ça veut dire que ma souffrance, ma lutte, c'est précisément la différence entre ce que la vie me donne tous les matins devant ma porte et ce que j'aurais aimé qu'elle me donne. Et la différence, c'est ma souffrance. Voilà. Et un des moyens, et les enfants sont doués de ce super pouvoir-là, c'est que précisément, ils ne se posent pas la question. Ils prennent la vie comme elle est. Et quand j'entends Pierre...
Donc vous revendiquez de prendre le pouvoir sur votre souffrance.
Ah mais moi je prends le
manière.
Pouvoir sur ma souffrance, complètement.
André Stern, sur tout de même ce choc après l'enfance, quand on découvre que la vie n'est pas, que le monde n'est pas aussi beau, comme le disait Pierre avec beaucoup de justesse.
Mais c'est peut-être qu'on a été tenu à l'écart du monde, et ça c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'on se trompe de précarité. On a très peur de la précarité matérielle, et on oublie que la précarité affective est celle qui est véritablement dangereuse pour nos enfants. Et à cela je voudrais ajouter, et c'est important par rapport à ce que exposait Pierre, nous devenons comme on nous voit. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. C'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Mais ça peut être très lourd, et on porte ça longtemps, on porte cette marque, parce qu'on se met à se voir avec les yeux que l'on pose sur nous. Et ça commence très tôt. Chez l'enfant, ça commence très très tôt parce que, par exemple, l'entourage ne cesse de demander aux parents « Alors, est-ce qu'il fait ses nuits ?» Ce qui fait que les parents vont se dire « Donc, faire ses nuits, c'est important. Un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Donc, le mien ne fait pas ses nuits. Donc, c'est peut-être que je ne fais pas bien mon travail de parent. » Et puis, du coup, on rencontre son enfant, lui disant « Aide-moi, fais tes nuits, sois différent, tel que tu es, je ne t'aime pas autant que je t'aimerais si tu faisais tes nuits, si tu dormais plus, je t'aimerais plus si tu dormais davantage. » Ce qui veut dire « tel que tu es, c'est pas terrible, c'est pas parfait, il faut que tu changes, il faut que tu évolues. » Et la nécessité de devenir nous prive de celle d'être. Et quand je dis qu'on devient comme on nous voit, imaginez qu'on en vient à dire une des phrases que moi j'ai le plus entendue et que vous allez peut-être reconnaître, qui est « Je suis nul en maths ». Alors il faut la décortiquer quand même cette phrase, hein. Je.
Ouais, c'est dommage, hein, on ne dit pas la même chose sur le foot, hein, c'est marrant, on dit oui, ça sur les maths. Ouais.
Voilà, je suis, le verbe être, nul, voilà un qualificatif en maths ou en quoi que ce soit. Et alors là où c'est terrible, c'est que je travaille avec des scientifiques, des neurobiologistes, divers scientifiques qui nous disent tous en chœur la même chose. Cette phrase n'a ni queue ni tête et ne veut rien dire. Aucun des mots de la phrase « je suis nul en maths » n'est correct. La vraie phrase serait « les mathématiques ne m'intéressent pas ». Si elles m'intéressaient, je serais brillant en mathématiques. Et donc, au lieu de se demander ce en quoi on est nul, on devrait plutôt se poser la question de qu'est-ce qui m'enthousiasme. Auquel cas, on découvrirait son génie. Et c'est peut-être par là que ça commence. C'est par changer d'attitude envers l'enfant qu'on a été et faire l'éloge de l'enfance comme le fait Franck, comme je le fais. C'est peut-être nous rappeler que justement, cet état d'enfant, c'était pas une honte, c'était pas une chose dont il fallait désirer sortir au plus vite. Quand tu seras plus grand, tu pourras faire ceci ou cela. Mais c'est peut-être quelque chose dont on pourrait être fier et qui, en reposant les yeux sur ce que nous étions enfants, et ça passe souvent par une chose toute simple qui est de regarder nos propres enfants ou les enfants de ce monde, on peut se rendre compte qu'on était venu au monde avec un trésor en nous-mêmes et que ce trésor, quand je parle d'enthousiasme, c'est l'un des éléments de ce trésor, il est en nous, c'est un lac intérieur qui ne peut être ni créé ni détruit, nous le portons donc en nous, cette énergie, cette capacité à nous enthousiasmer et à devenir géniaux, à ne pas laisser ce couvercle se poser sur notre enthousiasme, tout ça c'est en nous. Et il suffit parfois d'une émission comme celle-ci ou d'un livre comme ce que nous écrivons pour soulever un coin du rideau et voir de l'autre côté du rideau, voir ce lac intérieur qui va peut-être pas pouvoir sauver toute la génération des parents, mais qui, si nous posons un nouveau regard sur nos enfants, peut tout changer pour eux.
Mais néanmoins, André Stern et Franck Martin, c'est vrai ce que vous dites. Du moins, retrouver notre enthousiasme pour être heureux, sans aucun doute, pour devenir un génie, il y a une part d'imposture dans ce que vous dites, l'un et l'autre.
C'est la part de génie de notre enfance, c'est pas devenir un génie au sens Einstein. La part de génie de notre enfance, c'est simplement retrouver ce dont on était.
Le génie du bonheur, c'est ça.
Oui, le génie du bonheur. Donc c'est le génie de la non-analyse, le génie du non-commentaire, le génie du factuel, le génie du ici et maintenant, le génie du zen.
Et pour ça, d'ailleurs, Franck Martin, vous dites le pouvoir du langage est très important.
Ah oui. En fait, ce qui se passe, c'est y a plusieurs stades. Le premier des stades, c'est que en fait, dans on porte dans notre ADN une forme extraordinaire de génie qui est ce qu'on appelle les généralisations, les omissions et les distorsions, qui sont des choses qui nous permettent d'apprendre, quels que soient les contextes. Vous faites un premier pas quand vous apprenez à marcher, quand vous êtes tout petit, et puis le petit enfant, la petite fille, le petit garçon va poser son deuxième et par phénomène de généralisation, mais pas intellectuel, inné, va poser son troisième, puis son quatrième et va généraliser sa marche. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il sait faire sans la réflexion. On n'est pas dans le film « Allô maman, ici bébé » qui se dit « Ouh là là, j'ai mal posé mon petit pied à droite, il faut que je le pose mieux. » Non, il ne réfléchit pas. Il a ça de manière innée. Il a en lui cette capacité à faire des omissions, c'est-à-dire à mettre de côté ce qu'il ne sait pas gérer sur le plan émotionnel. Tout ce que vous ne savez pas gérer émotionnellement, le petit enfant, mais aussi l'adulte, le met de côté. Et puis enfin, il fait des distorsions, il fait des corrélations, des rapprochements entre des choses qui n'ont pas forcément de lien au départ et qui lui amènent cette créativité innée qui va lui permettre, quand il découvre des nouveaux savoir-faire, de les généraliser dans tous les contextes. Ça, c'est ce que j'appelle moi le God, sans jeu de mots malicieux, bien sûr. Cette généralisation, cette omission et cette distorsion, on la porte en nous. Et quand on commence à acquérir le langage, et qu'on approche de ce fameux âge de raison, et donc du coup qu'on touche, pour reprendre une image métaphorique, à l'arbre de la connaissance et au fruit défendu. Le fruit défendu, c'est pas un fruit défendu tel qu'on le voit dans notre cours de catéchisme, en tout cas pas pour moi. Le fruit défendu, qui n'est d'ailleurs pas défendu du tout, parce que c'est bien de pouvoir le croquer intelligemment, c'est précisément de se rendre compte qu'on va continuer de faire ces généralisations, omissions et distorsions de manière totalement inappropriée. C'est-à-dire que je vais, parce que je réfléchis avec ce langage et que je pense de la même manière que je parle, apprendre des structurations mentales qui me limitent dans ma vie. C'est-à-dire, je vais faire des généralisations.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, je me fais mordre dans la rue par un chien et je vais en conclure que tous les chiens sont dangereux. Par exemple. Et puis, en même temps, je fais une belle omission, c'est-à-dire que je mets immédiatement derrière qu'il y a plein de chiens qui sont absolument super sympas.
Mais en même temps, la force de l'expérience de l'adulte, c'est justement,
c'est précisément ce qu'on nous apprend pas, Emmanuel.
D'être incité à la prudence, voire au pouvoir de l'inquiétude.
C'est là où nous voulons élever ou protéger nos enfants, mais nous les rapetissons. C'est-à-dire que quand on leur donne ce genre de propos, c'est le propos de l'expérience, et je suis bien passé pour le savoir, qui est un peigne pour les chauves. C'est-à-dire que concrètement, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien si ce n'est se tranquilliser soi en tant qu'adulte. Mais l'enfant lui-même a besoin de cette autonomie, de cette capacité à faire par lui-même. Dans les écoles Montessori, quand vous voyez, il y a un film qui est absolument génial, qui parle des écoles Montessori, qui s'appelle « Le maître et l'enfant ». Et quand vous regardez ce film, et ben vous regardez des gosses qui ont 3, 4, 5 ans, qui se servent de fer à repasser, mais pas des faux, des vrais, qui se servent d'huile dans un verre, qui vont faire des choses qui sont normalement réservées aux adultes et qu'on leur laisse faire en toute autonomie, en leur donnant les règles et le cadre. C'est ça, élever les enfants.
Enthousiasme, en tout cas, optimisme, confiance et collaboration aussi. Oui, comment travailler avec les autres, et pas seulement dans la compétition, ça c'est aussi des sujets de conférence que vous donnez dans les entreprises. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Comment retrouver concrètement ce paradis perdu, cette énergie propre à l'enfance?
My son, call me a dreamer. I'm not the only one. It only seems impossible until it's done. His story is good until we tell another one. Meanwhile, sell another gun and blame them if they use it up to kill another one. Well, it's still before the storm. We set sail against the currents and the norms. Here we are.
Back Guts, on est en compagnie d'André Stern qui signe Tous enthousiastes, retrouvez votre énergie d'enfant, et Franck Martin qui publie Les super pouvoirs de l'innocence, comment retrouver la part de génie de notre enfance. Alors, ce que vous nous dites beaucoup, c'est évidemment le mieux, c'est quand même de commencer par bien faire avec ses enfants, et vous nous avez donné beaucoup de pistes pour élever ses enfants, un peu à contre-courant d'ailleurs de notre société. Mais pour les adultes qui nous entendent et qui se disent oui, bien sûr, oui, c'est sûr qu'on peut voir le verre à moitié vide comme le verre à moitié plein et transformer, libérer son énergie en retrouvant une forme d'enthousiasme. Mais comment concrètement pour les adultes qui ont été conditionnés, pas seulement par leur enfance, mais aussi par le monde qui les entoure, par l'entreprise, par le monde du travail, par la société tout entière, André Stern?
Alors le comment, je pense qu'il n'y en a pas de valable généralement, parce que sinon ça serait une méthode et je serais en train de tenter de vous vendre une méthode, et ça c'est pas du tout le cas. Non, je pense que je vais attraper au vol une chose que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de l'imposture de la génialité, et je pense que justement, tant que nous le croyons, eh bien nous nous limitons nous-mêmes et nous nous coupons nous-mêmes les ailes qui nous ont été données au début. Et je pense que de voir justement que nous vivons dans une société du déficit où on essaie toujours de voir en quoi nous ne sommes pas bons afin de nous faire travailler davantage là où nous ne sommes pas bons. Or, quand on sait que l'on n'est pas bon parce que ça ne nous intéresse pas, ça ne nous enthousiasme pas,
refuse saut d'obstacle et on fait un détour, c'est ça. Méthode, c'est ça.
C'est de se rendre compte que le droit à la génialité existe et que ce qui nous rend génial, c'est ce qui nous rend chacun d'entre nous, hein, ce qui nous rend géniaux, nous, les humains, c'est quand nous faisons ce qui nous enthousiasme et que ce qui nous enthousiasme a le droit d'être pertinent. Et ça, ça passe par une chose assez simple qui est juste de se libérer des hiérarchies que nous voyons entre les métiers et entre les matières. Parce qu'un enfant, par exemple, s'enthousiasme autant pour les mathématiques que pour le tricot, pour le métier de l'éboueur, que pour le métier de l'astronaute. Et c'est quand nous aurons vu ça que nous nous serons libérés du poids de ces attentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer
du
d'être
moyen... Du poids du regard de la société, sous-entendu.
Quand on aura cessé de vouloir être moyen là où on est mauvais et qu'on voudra être encore plus excellent là où on est bon, on retrouvera ces ailes qui effectivement nous permettront de nouveau de venir nous arrimer à la génialité que nous contenons tous en nous, et ça, je tiens à la défendre bec et ongle, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une imposture, elle est là, nos enfants la vivent sous nos yeux, nous la montrent sertie dans leur jeu et dans leur vie et leur loyauté, elle est là, elle est à notre portée, ce serait dommage de continuer à laisser ce couvercle nous empêcher de déployer nos ailes.
Il nous reste 2 minutes, 2 auditeurs dont je vais lire les messages parce qu'on n'a pas le temps de les prendre au téléphone, mais évidemment, si vous avez un élément de réponse. Pauline, pas vraiment optimiste, elle dit « J'ai perdu mon enthousiasme, je suis une vieille adulte, encroûtée, j'ai 48 ans, je vais me lancer dans une formation, ça va me faire du bien, j'espère que mon esprit créatif va se libérer. » Franck Martin.
Alors, c'est difficile de faire du coaching comme ça sur un mot qui est lu, mais moi je pense que déjà Pauline, elle va sans doute découvrir plein de choses nouvelles, et puis surtout qu'elle soit justement, alors pour le coup, ouverte à ce qu'elle peut découvrir sans aucun a priori. Et ça, c'est précisément une part du génie de l'enfance.
Et puis 48 ans, quand on voit l'espérance de vie, ça veut dire que c'est l'aube d'une deuxième vie.
Ah oui, mais complètement.
Et Pauline, il y a quelque chose à lui dire aussi. On nous a toujours dit « je t'aimerais davantage si tu étais différente, si tu étais plus comme la société ou tes parents. » Et je crois qu'il y a une petite chose qu'on peut dire à l'enfant intérieur, l'enfant blessé, celui qui a toujours entendu ça, on peut lui dire « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça change tout.
Et puis, peut-être encore un dernier point pour Pauline, c'est peut-être qu'elle réapprenne, parce qu'elle savait le faire toute petite, à vivre le moment présent, ici et maintenant. Et entre autres, la question qu'elle peut se poser, c'est quand précisément, je parlais tout à l'heure des pensées compulsives, quand elle a ces pensées qui reviennent comme ça et qui l'angoissent éventuellement sur son avenir, ou qui l'angoissent parce qu'elle elle culpabilise éventuellement de son passé, ce qu'elle peut se poser comme question, c'est est-ce que ce dont je souffre ici, c'est vraiment quelque chose qui appartient à ici ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est demain et auquel cas elle n'a pas à en souffrir puisqu'elle ne sait pas ce qui va se passer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient au passé auquel cas elle n'a plus à en souffrir puisque de toute façon c'était son meilleur choix quand elle l'a fait? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi que les petits savent faire et que nous pouvons encore réapprendre à
une
faire.
Une cure d'insouciance, donc vous nous préconisez. Arnaud à Cotonou, je vous lis son message. Mon expo perso, je suis un jeune adulte et je garde mon âme d'enfant, je suis entrepreneur, petite structure, je garde un contact avec les enfants pour rester grand enfant, mes neveux, je joue avec eux. Voilà, cure d'insouciance
cure
de jeu avec les enfants.
C'est ce que fait Arnaud, justement, ne pas oublier une chose. Nous voulons tous que nos enfants, un jour, soient des adultes heureux et on en oublie une chose primordiale qui est de vivre aujourd'hui, sous leurs yeux, ce que sont des adultes heureux. Ils ne vont pas l'inventer tout seuls, sinon.
Merci à tous les deux. André Stern, vous signez tous enthousiastes aux éditions Auray. Franck Martin, les super pouvoirs de l'innocence chez Erol. Merci à tous les deux d'être venus.
Emmanuel.
Et de nous avoir fait partager votre bonne humeur. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, on restera dans l'optimisme et l'énergie. La parole est aux jeunes qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété. Dès maintenant, vous pouvez nous contacter pour passer dans l'émission et parler de vos projets d'entrepreneuriat. 33 1 84 22 71 71, adresse mail 7milliards@rfi.fr. À demain, 10h10 TU.